Un chasseur sachant chasser sans son chien est-il un bon chasseur? La chasse, un
Mais tu fais
chasseur.
quoi là?
Là, je m'entraîne pour les prononciations pour mon intro. Un chasseur sachant chasser sans son chien.
Allez, c'est clapé, silence et action!
Mesdames, messieurs, bienvenue dans les portraits et aujourd'hui, on va parler des sacheurs. Et merde.
Mesdames, messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, on va vous parler des chasseurs, Host. Les chasseurs.
Ça va.
Mais pas de n'importe quel chasseur, puisqu'on va vous parler de ceux qui s'engagent en politique, et plus particulièrement de Frédéric Nihous.
Toquel ou Perdreau ?
Perdreau.
Quoi ?
Parce que je le chasse.
Et oui, Frédéric Nihous est chasseur, il habite dans un petit village à la campagne, et il veut que ça se chasse. Il veut que ça se chasse. Il veut que les gens soient au courant.
Je suis élu rural, je suis adjoint au maire de mon village, 560 habitants dans le Béarn. À la mairie, on galère tous les jours pour monter un projet, pour un financement. C'est toujours des économies de bout de chandelle et autres, parce qu'on n'a pas de gros budget.
Nihous, vous le connaissez peut-être au moins de nom, puisqu'il a été candidat à l'élection présidentielle une fois et demie. Il va se présenter en 2007 et tenter de se présenter en 2012, à chaque fois sous l'étiquette CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, un parti qui avait remporté quelques succès électoraux après sa création en 1989.
C'est d'ailleurs en 1989 que CPNT va réaliser un score honorable aux européennes en récoltant plus de 4% des voix.
Après d'autres succès au régional et au municipal, le parti réussit à dépasser les 4% lors de l'élection présidentielle de 2002 avec son candidat Jean Saint-Josse.
Et donc Nihous, c'est le successeur de Saint-Josse et en 2007, il est là pour donner une image plus jeune au parti. Oui, ce mec, qui est un ancien du RPR, doit donner une image plus jeune.
Ah, Danny Way.
Oui.
Tellement votre, bien évidemment.
Il va mener ses deux campagnes présidentielles en 2007 et en 2012 en ayant un discours anti-européen.
On ne peut pas accepter cette Europe qui fonctionne qu'à coup de délire des technocrates de Bruxelles. Ceux qui décident de votre quotidien sans jamais sortir de leur bureau. Votre quotidien est géré par 36 000 directives. 36 000 sur tout et n'importe quoi. Mais l'Europe, elle n'a pas autre chose à foutre.
Mais le vrai fil conducteur de son discours, c'est qu'il se positionne comme un défenseur de la ruralité.
Pourquoi être candidat ? Mais tout simplement parce qu'il y a une France qui est bâillonnée, cette France des 13 millions de ruraux qui sont toujours oubliés, qui servent de variable d'ajustement. On ferme les services publics, on ferme les écoles. Je me bats d'ailleurs dans mon propre village pour pas qu'on nous ferme l'école puisqu'on nous supprime des postes.
C'est un village de 560 habitants.
Vous savez, on n'a pas une déduction fiscale sur notre feuille d'impôt parce qu'on habite dans une zone rurale et qu'on nous ferme tout.
Ce qu'il dit, c'est que les gens des campagnes sont des laissés pour compte qui payent autant d'impôts que les autres sans avoir autant de services publics.
Bon, ça c'est ses thèmes favoris. Mais en dehors de l'Europe c'est nul, la ruralité c'est bien, on voit bien qu'il n'y a pas grand chose. Dès que les journalistes le poussent un peu sur d'autres thèmes, il n'est pas hyper à l'aise.
Il y a quelque chose qui est déjà dans votre programme. C'est, je vous cite, le respect de tous et de leur choix de vie, la garantie du choix de vie de tous dans une politique familiale ambitieuse. Donc, c'est quoi la garantie du choix de vie de tous ? Est-ce que c'est le mariage homosexuel, par exemple ?
C'est le bien vivre au pays.
Le bien vivre au pays, bon, il est contre le mariage homosexuel, quoi.
Oui. C'est d'assurer le respect justement de cette
ça,
vie sur le territoire.
Réponse,
c'est la sécurité pour tous. Il y a une insécurité croissante en milieu rural.
Familiale.
On n'en parle pas.
Familiale.
La politique familiale, il faut la soutenir, il faut la défendre. Absolument, c'est particulièrement important.
Bon, on va pas faire durer le suspense. Hein. Frédéric Nihous et le CPNT, ils vont pas réussir à retrouver leur score de la fin des années 80 et des années 90. Déjà, en 2007, ils se prennent une tôle.
Arlette Laguiller, 1,5. Frédéric Nihous, 1,5 également. José Bové, 1%. Et Gérard Chivardi, 0,5%.
Et c'est encore pire en 2012, puisqu'il va même pas obtenir les 500 signatures. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il était candidat une fois et demie.
Les candidatures de Nihous en elles-mêmes, elles sont pas hyper intéressantes. On l'a vu, il est pas très bon et son poids électoral est dérisoire.
Mais de toute façon, c'est pas son but à Nihous d'être président. CPNT ne cherche pas le pouvoir.
Dans le cas de 2007, cette candidature avait été poussée par un certain ministre de l'Intérieur de l'époque.
Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy.
Alors ça peut paraître un peu bizarre, pourtant c'est corroboré par d'anciens proches de Nihous, comme on pouvait le lire dans un article de Vice. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vice, c'est un média qui a été cool entre janvier 2015 et février 2017.
C'était déjà une candidature complètement artificielle. Se souvient Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs et ancien directeur de campagne de CPNT. L'UMP lui avait fourni 200 signatures de manière quasi officielle. Et d'ajouter, Frédéric Nihous s'était vendu à l'UMP comme une force d'opposition au Front National dans les régions. Sauf qu'il y a fait un score ridicule.
Bon, c'est vrai qu'en 2007, Sarkozy avait réussi à siphonner le FN. Mais c'était pas grâce à Nihous, hein.
Oui, bah en même temps, c'est quand même dur de faire le lit du FN quand on a ni couverture, ni housse.
Réel, ça.
Mais pour Sarkozy, il y avait un autre intérêt à cajoler le Fredo, comme on dit.
C'est vrai, tout le monde dit ça.
Pousser la candidature de Nihous permettait à Sarkozy de s'attirer un électorat très courtisé par la classe politique.
Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon.
À chaque élection, c'est un enjeu. Qui va récupérer la voix des 1,2 million de chasseurs français?
Oui, et après la candidature de Jean Saint-Josse en 2002, le CPNT n'est plus le seul à courir après les chasseurs français.
D'autres l'ont bien compris, les chasseurs, c'est un électorat important. Comme le candidat souverainiste Philippe de Villiers, venu les draguer lors d'un forum consacré à la chasse.
Je salue les ruraux profonds.
Sans oublier Jean-Marie Le Pen, le candidat Front National.
Donc toute la droite se met à défendre les chasseurs en 2007, comme quoi le lobbyisme de CPNT a bien fonctionné.
De toute façon, c'est comme ça que fonctionne le parti. Hein. Ils cherchent à peser sur les autres pour obtenir des avantages pour les chasseurs.
Après eux, ils disent non, on n'est pas le parti de la chasse, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Pourquoi une candidature des chasseurs?
Non, c'est une candidature des ruraux.
Voilà, des ruraux, c'est plus des chasseurs.
Je suis chasseur, bon. Effectivement. Hein, donc, étant le seul candidat justement qui est chasseur, je suis le vote utile pour les chasseurs de France. Mais avant d'être chasseur, je suis un citoyen, je suis un père de famille.
Ah bah évidemment, pas d'amalgame. Hein. C'est pas parce que le nom de son parti commence par le mot chasse que c'est le parti des chasseurs. Hein. On doit surinterpréter, je pense, ça doit être ça.
Cette stratégie de lobbying ne s'arrête pas en 2007. Regardez-le, là, on est en 2010 pour les régionales et CPNT s'allie avec la droite.
Ils voulaient notre soutien. Nous, on voulait faire aboutir un certain nombre de choses sur des dossiers phares en matière de ruralité, en matière d'agriculture, en matière de chasse aussi.
Oui, aussi, peut-être surtout même. Le CPNT, il parle beaucoup de chasse, un peu de tradition, presque pas de pêche et pas du tout de nature.
D'ailleurs, ils l'ont ajouté après le nature dans leur sigle. Sinon, l'acronyme, ça faisait CPT. DR.
En 2012, c'est encore plus flagrant, puisque Nihous s'est rallié à Sarkozy après avoir échoué à récolter les 500 signatures.
Et en échange de ce ralliement, Sarkozy a écrit une jolie lettre en soutien aux chasseurs et en rappelant tout ce qu'il avait fait pour eux.
De la chasse accompagnée à la diminution du prix du premier permis, en passant par l'instauration du guichet unique qui simplifie la vie de tous les chasseurs, nous avons entendu faciliter l'accès à la chasse qui doit rester démocratique et populaire.
Bon, donc Nihous, c'était une candidature de lobbying, inféodée à la droite, ok. Mais il reste une question, qu'est-ce qu'ils ont tous avec les chasseurs?
Bah oui, la chasse, c'est même pas le loisir le plus pratiqué en France. Et pourtant, on voit pas de partie des footballeurs, des rugbymen ou de l'équitation.
Le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, je trouvais trop beau d'aller au galop.
Alors qu'est-ce qui fait que les chasseurs ont pu prendre autant de place?
Bah attends, mais c'est quand même les premiers écologistes de France.
C'est aussi un sentiment plus fort, celui de se reconnecter à la nature. Mais ça... ce n'est pas en 30 secondes qu'on peut le ressentir.
Derrière cette expression un peu marketing se cache une réalité. Les chasseurs sont très intégrés aux institutions de l'État français.
Il y a par exemple des chasseurs qui sont représentés à l'ONF, vous savez, l'Office National des Forêts.
Autre exemple, les fédérations de chasseurs, dans la loi, elles ont 10% des sièges au conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité.
Dans son bouquin, avec cette affreuse couverture, Christophe Traigny résume la place des chasseurs.
L'ensemble des données atteste à quel point la gestion de la chasse s'appuya longtemps sur des concessions de prérogatives de puissance publique qui accordent aux structures associatives des chasseurs un quasi-monopole en matière de gestion de la faune sauvage.
Donc la Fédération nationale des chasseurs est très intégrée dans les institutions françaises, ils le disent eux-mêmes sur leur site.
Reconnue et inscrite depuis 2011 dans la liste limitée des associations agréées pour la protection de l'environnement, la Fédération nationale des chasseurs intervient au sein de nombreuses instances qui forment un écosystème pertinent sur des sujets aussi divers que la biodiversité, la chasse, la forêt, les aspects sanitaires de la faune sauvage, le développement durable et la transition écologique, et enfin, l'agriculture.
Ils sont intégrés dans les institutions, donc ils connaissent les élus, et ces élus sont même parfois chasseurs.
Il suffit de regarder la liste des députés et sénateurs membres du groupe d'études Chasse et Pêche, qui vise à promouvoir et défendre la chasse, pour se rendre compte de la place occupée par ce loisir dans notre monde politique. Ils sont quand même 89.
À titre de comparaison, dans le groupe pour lutter contre les LGBTQI-phobies, ils sont 33.
Et dans précarité, pauvreté, non-recours aux droits et sans-abri, ils sont 27. On voit les priorités, hein.
Bon, ils sont très intégrés aux institutions, ils ont du poids, mais alors dans ce cas-là, pourquoi créer un parti?
Et pourquoi se présenter aux élections? Bon, ils auraient pu continuer leur lobbying tranquillement, discrètement, en pesant sur les grands partis sans se mettre en avant, comme Uber avec Macron, par exemple.
La raison, elle est assez simple. La création de CPNT à la fin des années 80 intervient à une époque où l'image de la chasse et des chasseurs est très dégradée pour la population française. Comme le dit Christophe Traigny dans son livre à la couverture toujours aussi moche.
Après avoir incarné dans la geste pagnolesque la gloire de mon père, l'adepte de la chasse est devenu en quelques décennies seulement le modèle du beauf, grotesque et coupable. Ainsi, le chasseur a dû apprendre à contempler, notamment dans les médias télévisuels, un ensemble d'images bien peu gratifiantes de sa pratique.
Christophe Traigny poursuit. Durant les années 1980, le chasseur fut souvent présenté sous les traits d'une brute épaisse qui, la gibecière pleine de canettes de bière, arpente les sous-bois afin de cribler de plomb le plus petit souffle de vie sauvage.
Non, bon, bah, c'est l'accident bête, quoi. Je croyais que c'était une canette cendrée. Bon, bah, je tire, bon, bah, c'était ma chienne.
Donc cette expérience partisane, c'était un moyen de redorer leur image. Bon, ça n'a pas vraiment marché, hein, l'image du chasseur, elle n'est pas bien meilleure aujourd'hui.
Alors on veut faire passer le taux d'alcoolémie de 0,5 à 12.
Mais la création de ces PNT, c'est aussi la réaction à l'émergence d'une autre force qui est détestée par les chasseurs, les écolos.
Ah mais ça, les chasseurs, ils peuvent pas blairer les vers. Hein.
Nous, les ruraux, on vit leur diktat et leur délire un petit peu monomaniaque sur l'écologie.
Ce sont des bobos qui viennent des centres-villes et qui ne connaissent rien à la nature ni à la campagne.
Quand Dominique Voynet ou Yves Cochet viennent nous expliquer comment on doit vivre dans la ruralité alors que l'une est élue en Seine-Saint-Denis, l'autre est élue de Paris.
Et encore ça, c'est politiquement correct. Mais dans le bouquin de Traini, qui a fait des entretiens avec les chasseurs, il y a carrément un tableau pour lister les termes qu'ils utilisent pour parler des écolos. Les Khmers verts, l'écologie de trottoir, la boulimie escrologiste ou encore des opposants hystériques au service d'une dictature verte.
Pourtant c'est bizarre, chasseurs et écolos prétendent tous les deux défendre la nature. Alors pourquoi tant de haine, demande je avec une fausse naïveté.
Alors ça a des explications sociologiques et politiques. Politiquement, vous l'avez peut-être déjà entendu, les chasseurs se présentent comme les premiers écologistes de France. Ils justifient cette étiquette en affirmant effectuer un travail de régulation de la faune, par exemple en tuant les espèces invasives. Ils sont aussi impliqués dans la protection des cultures des agriculteurs en se débarrassant du grand gibier qui détruit les récoltes.
D'où dans leur discours l'opposition entre des écolos déconnectés et des chasseurs qui connaissent le terrain.
Mais ça serait bien qu'ils mettent les pieds sur le terrain pour voir ce que c'est aussi que la vie au quotidien. Mais vous savez, les zones rurales de France n'ont pas vocation à devenir des réserves d'indiens ou des zoos à ciel ouvert. C'est un espace de vie pour 15 millions de Français, faudrait pas l'oublier.
Il parle de zoos ou de réserves et c'est pas la première fois. Écoutez ce qu'il dit en 2011 pour l'ouverture d'un parc dans les Bouches-du-Rhône.
Ah, écoutez, le parc des Calanques, pour moi, je suis résolument contre. Pour une raison toute simple, c'est que c'est une confiscation et une collectivisation de la nature. C'est un peu les colcos de la nature. Et en plus, c'est l'instauration d'une dictature locale.
Globalement, ces PNT vont se dresser contre toutes les mesures de protection et de sanctuarisation de la nature. Ils vont notamment être horrifiés par le projet de réseau Natura 2000, qui rassemble les sites naturels protégés au niveau de l'Union européenne.
Déjà qu'ils aiment ni l'Europe ni les parcs, alors les deux en même temps, bon.
Cette réaction épidermique liée aux parcs naturels, elle vient du rejet de la vision de la nature portée selon eux par les écolos et les néo-ruraux.
La campagne des néo-ruraux est avant tout une réserve de paysages. Un ensemble de territoires érigés en objets de contemplation dont les valeurs esthétiques sont directement indexées sur leur virginité supposée. On recherche alors la jouissance qui consiste à contempler à distance une nature inaltérée par la main de l'homme.
Pour les urbains et les partis écologistes implantés en ville, la nature serait quelque chose de distinct de l'espèce humaine, un patrimoine à protéger.
Et ça, c'est le contraire de la vision des chasseurs qui se considèrent comme des acteurs de cet environnement. Tenez, dans le livre, il y en a un qui explique que les écolos ne comprennent rien et que leur vision de la nature consiste à, je cite, « regarder une buse bouffer ton poulailler ».
L'écologie, elle ne se fera pas sans et contre ceux qui vont la vivre au quotidien. Il faut prendre en compte cette dimension-là. Une écologie contemplative où on marche qu'à coup de restrictions, je le répète, de sanctions, ça ne peut pas fonctionner. Il y a un rejet par rapport à ça.
Eux, les chasseurs, ils ont les mains dans le cambouis. Contrairement aux écologistes des villes, eux, ils sont sur le terrain. Ils savent utiliser les ressources qui sont mises à leur disposition.
Et ils vivent sur place. Enfin, ils vivent sur place. Pas toujours.
Oui, parce que les chasseurs, ils ont aussi une vision fantasmée de la ruralité, figurez-vous. Bien souvent, les chasseurs ne vivent ni à la campagne, ni dans les centres-villes, mais plutôt dans des lieux qui se sont urbanisés au fil du temps, à la périphérie de villes moyennes. Pensez à des banlieues pavillonnaires, par exemple. Cette réalité est résumée dans ce colloque de géographie.
On peut émettre alors l'hypothèse plus précise que l'électeur chasseur exprime un vote de réflexe contre la ville dans un espace non urbain, mais néanmoins relativement proche des grandes concentrations urbaines, pouvant ainsi percevoir son environnement ou son mode de vie comme menacé.
En gros, il y a une opposition entre des chasseurs qui habitaient avant à la campagne et qui se font rattraper par la ville, ça c'est l'urbanisation, et de l'autre côté, des gens qui habitaient avant en ville et qui se déplacent pour vivre à la campagne, c'est les néo-ruraux.
Et ces deux groupes, ils ont tous les deux des visions opposées de la nature qui sont fantasmées.
Mais on voit bien comment cette opposition elle peut se traduire en discours politique, avec cet enracinement, ces traditions, c'est même dans le nom du parti.
Ouais, et de l'autre côté, on a des bobos déconnectés qui déménagent tout le temps, qui viennent des villes, qui n'ont pas d'ancrage local. C'est très mobilisateur comme discours, hein. D'ailleurs, le RN le tient un peu en y ajoutant une dimension raciale sur la culture menacée et avec plus de succès électoral.
Le vote Marine Le Pen est un vote qui est d'autant plus fort qu'il est loin du centre urbain.
En tendance, plus on s'éloigne, plus le vote FN augmente jusqu'à atteindre un pic, si vous voulez, dans une zone de 30 à 50 km des grandes métropoles. Alors c'est le cas pour Paris, mais aussi ailleurs. Et puis après, de redescendre un petit peu.
Vous voyez, c'est les mêmes zones que là où on trouve les chasseurs. Éloigné des villes, mais pas trop. Parce que si on est trop loin, on ne se sent pas mis en danger par les urbains.
Oui, parce que c'est ça que le vote CPNT indique aussi, une peur de perdre son mode de vie. Un mode de vie très communautaire, ancré dans des valeurs virilistes. Pour les chasseurs, la cabane de chasse, c'est le lieu où les hommes se retrouvent après le travail. Mais pas n'importe quels hommes, ceux qui ont toujours vécu et grandi au même endroit et qui se sentent relégués.
C'est aussi de ces personnes dont parle Benoît Coquart dans son livre « Ceux qui restent », consacré aux espaces ruraux en déclin.
Mais d'un autre côté, on a en fait toute une France rurale qui perd en population, qui se situe plus exactement du côté des régions anciennement industrialisées, qui sont essentiellement peuplées par ce qu'on appelle en sociologie les classes populaires. C'est des ouvriers, des employés qui sont les descendants en fait aussi des ouvriers industriels qui ne sont plus là évidemment.
Ce que montre la sociologie électorale, c'est qu'on a d'un côté des électeurs d'Europe Écologie Les Verts, plus diplômés que la moyenne française, qui déménagent régulièrement, qui sont plus urbains, sans attache locale forte, et de l'autre, des chasseurs qui vivent dans un entre-soi important.
Et qui déménagent peu, parce que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est un clivage plus vaste qui apparaît. Il oppose les citoyens qui maîtrisent leur mobilité à ceux qui la subissent. Un vote nomade à un vote enraciné. Un vote individualiste à un vote communautaire.
Mais si CPNT a bidé, c'est peut-être parce que la ruralité mérite mieux que des discours qui se concentrent uniquement sur la chasse ou sur des pratiques minoritaires.
Avec News, les combats de coqs, on les interdit ou pas ?
On les interdit pas, c'est ma culture.
Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question.
La chasse, c'est une pratique minoritaire, malgré le poids de leur lobby. On est passé de 2 millions de pratiquants dans les années 70 à 1,2 million aujourd'hui.
Même si ça reste un loisir pratiqué par les classes populaires, c'est de moins en moins le cas, et 45% des chasseurs sont inactifs, donc essentiellement des retraités.
Les rares succès électoraux de CPNT se sont vus à des endroits où la pratique de la chasse est importante, comme l'Aquitaine ou la Somme. Mais avoir le vote d'une partie des chasseurs, ça fait pas une élection. Et ce n'est pas Nihous qui récolte les suffrages dans les régions délaissées qu'il prétend représenter.
Ceux qui restent, qui sont abandonnés par l'État et qui ont l'impression que leurs modes de vie sont menacés, ils votent pour d'autres candidats. Ou candidates.
C'est ici la France, c'est pas les salles de Bruxelles, c'est ici la France.
Des discours à la Nihous, à la Lassalle ou même à la Roussel, sur des traditions très figées dans le temps, c'est pas très porteur électoralement.
Et franchement, ma broque, vous n'allez pas me parler du sexe des escalopes quand même.
Ces discours, ils évacuent la complexité de cette France qui est désindustrialisée et en déclin.
Oui, un parti de niche, un parti corporatiste comme CPNT ne représente qu'un aspect de la ruralité. Et il masque tout un ensemble d'autres pratiques et d'autres façons de vivre la ruralité.
L'erreur de CPNT, ça a été de promouvoir une vision unique de la ruralité, derrière le prisme de la chasse. Alors oui, ok, les chasseurs ont du poids politiquement. Mais la plupart des gens qui ont grandi à la campagne ne pratiquent pas la chasse. Et leurs enjeux au quotidien, c'est pas la défense de la ruralité et d'un mode de vie, mais plutôt d'avoir du pouvoir d'achat et du travail. D'autant plus qu'on est dans des milieux où le travail est extrêmement valorisé.
On m'a dit « celui qui ne travaille pas ne vaut rien », c'est revenu plusieurs fois. Moi, je trouve cette phrase très forte parce qu'elle est à la fois intériorisée par ceux qui ont du travail et ceux qui n'en ont pas.
Et c'est bien l'extrême droite qui a compris cette peur du déclin. Elle l'a compris en jouant sur une concurrence avec les immigrés qui auraient droit à des avantages auxquels les ruraux laissés pour compte n'auraient pas accès.
Tout d'ailleurs, vous me parlez du vote
extrême droite. Justement. Oui,
c'est aussi ça, c'est de dire en me réclamant d'un discours politique qui fustige les dits assistés, etc. Je me mets du côté de ceux qui le sont pas.
Oui, parce que Nihous aussi, il a pas trop considéré le fait que les gens sont racistes. Non, mais c'est un peu brutal, mais il faut le dire.
Oui, parce qu'en 2007, Nihous y défendait même un peu les banlieues en disant qu'elles aussi étaient laissées pour compte.
De la ruralité jusqu'au quartier, on doit avoir un vaste élan de solidarité, on doit serrer les coudes pour tous s'en sortir.
À ce moment-là, Frédéric Nihous, il tente un peu la ligne de l'union des quartiers avec la France périphérique.
Mais ça n'a pas fonctionné et il a vite arrêté.
Ce qui a marché depuis 2002 et jusqu'à aujourd'hui, quand on s'adresse aux ruraux, c'est de jouer sur la peur de l'autre. Encore une fois, on vous renvoie au résultat du RN en dehors des villes.
Le chercheur Félicien Faury, interrogé par Fabien Escalona pour Mediapart, ne dit pas autre chose.
Pour le dire un peu brutalement, ce sont des personnes qui n'ont pas les ressources sociales à la hauteur de leur désir ségrégatif, de leur volonté de partager un entre-soi blanc. De ce point de vue, ces électeurs sont dans une position de dominant-dominé, qui va leur rendre d'autant plus séduisants les discours qui promettent de durcir les frontières de l'ordre racial.
C'est un peu complexe, mais pour ce chercheur, ce qui mobilise l'électorat d'extrême droite, c'est une volonté de rester entre blancs qu'ils n'ont pas les moyens de rendre effective.
Les discours un peu idéalisés sur la ruralité semblent bien loin de ces considérations. Il n'y a pas de résultats électoraux, c'est pas porteur. Hein, Fabien Roussel ?
Alors non, tout le monde n'est pas raciste et d'extrême droite à la campagne, heureusement. Mais on vous a expliqué au début de l'épisode que la candidature de Nihous avait été permise par Sarkozy justement pour séduire cet électorat-là.
Mais le discours sur les villes multiculturelles face aux campagnes enracinées, on voit très bien comment est-ce qu'on peut en faire un discours politique d'extrême droite raciste.
Alors on va dans les banlieues, on va dans d'autres banlieues, on va dans d'autres banlieues, mais la France, c'est pas la banlieue. La France, c'est la campagne d'abord, je vous signale.
Alors on fait quoi ? On laisse les campagnes à Le Pen ? Non, il existe d'autres sons de cloche sur la ruralité. Le son de cloche, vous l'avez ? Sur les vaches.
Oui, il y a toujours eu des discours différents sur la ruralité. La question des périphéries, des laissés pour compte en dehors des villes, ne se résume pas à des discours racistes ou à la défense des combats de coq. Sur la question des services publics, du déclin industriel, la gauche essaye de s'en emparer, avec des gens comme Ruffin par exemple.
Et surtout, des organisations comme la Confédération Paysanne, les Soulèvements de la Terre ou des personnes comme José Bové montrent qu'il est possible de tenir un discours écologiste, progressiste et porteur tout en vivant dans ces espaces qui sont effectivement bien trop souvent méprisés par les milieux parisiens.
Que vous soyez en ville ou à la campagne, que vous soyez un chasseur et que vous détestiez les bobos qui viennent boire des IPA dans vos villages ou que vous détestiez les chasseurs qui viennent boire des 1664 dans vos forêts, eh bien vous pouvez toujours vous abonner à Blast pour nous soutenir parce qu'on est un média indépendant.
Et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau portrait. D'ici là, n'hésitez pas à suivre la chaîne.